Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Je suis très heureux de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'armée burkinabé qui a éliminé le numéro 2 de l'État islamique dans le Grand Sahara. Le règlement pacifique du conflit en Ukraine, impossible sans la participation de la Russie selon la diplomatie suisse. Et une compagnie aérienne africaine qui remporte un prix des BRICS. Le président de la transition du Tchad, Idriss Déby, est arrivé à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Un panafricaniste burkinabé fera le bilan de cette visite. L'armée ukrainienne a abattu un avion transportant ses soldats faits prisonniers par la Russie. Le président d'un parti politique français nous livrera ses analyses. La journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, c'était le 24 janvier. Le vice-président de la Commission de la culture de l'Union de la diaspora africaine reviendra sur l'importance de cette date. Haruna Houlel, alias Abdelmalik, a été éliminé par l'armée burkinabé le 21 janvier dernier. Ce sont des sources sécuritaires qui ont fait parvenir cette nouvelle à l'agence d'information du Burkina. Celui-ci était à bord d'un pick-up, escorté par plusieurs combattants au moment des faits. C'est en le suivant dans la zone de Markoye que les vecteurs aériens de l'armée burkinabé ont envoyé un missile au moment où ces individus ont marqué une pause sous un arbuste, selon l'agence. L'homme éliminé était le numéro 2 de l'État islamique dans le Grand Sahara, organisation terroriste interdite en Russie. Une récompense de 150 millions de francs CFA, soit environ 250 000 dollars, avait été mise en place pour sa capture. Pour rappel, depuis 2019, ce terroriste avait pris part dans la majorité des attaques perpétrées principalement contre les militaires burkinabés. Ce gros coup vient confirmer la montée en puissance de l'armée burkinabé, évoquée récemment par le président de la transition, Ibrahim Traoré. La diplomatie suisse estime qu'une solution pacifique au conflit en Ukraine est impossible sans la participation de la Russie. Ignacio Cassis, le chef du département fédéral suisse des affaires étrangères, l'a déclaré en marge d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, où il a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov. Pour M. Cassis, cette entrevue avec le chef de la diplomatie russe avait pour but d'établir un dialogue qui se poursuivra, selon lui, vers la recherche d'une formule de paix. Sergei Lavrov a profité de cette occasion pour pointer à Ignacio Cassis l'éloignement continu de la Suisse des principes de neutralité et de son soutien inconsidéré au régime de Kiev. L'Éthiopie, qui vient seulement d'intégrer les BRICS, reçoit déjà des récompenses. Sa compagnie aérienne Ethiopian Airlines a annoncé avoir reçu le prix de l'entreprise durable décerné par la Chambre de commerce et d'industrie d'Inde. Ce prix lui a été remis à l'occasion d'un événement des prix de reconnaissance annuel 2024 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des BRICS à Delhi, en Inde. Pour rappel, le groupe des BRICS est composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, de l'Éthiopie et de l'Iran. Cette année, c'est la Russie qui assure la présidence tournante du groupe. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le président du Tchad, Idriss Déby, s'est rendu en Russie à l'invitation de Vladimir Poutine. Les deux leaders ont parlé de perspectives de développement des relations russo-tchadiennes dans différents domaines, ainsi que de sujets régionaux et internationaux d'actualité. Monsieur Déby est venu à la tête d'une délégation de ministres. Le chef de la diplomatie tchadienne, Mohamed Saleh Anatif, s'est entretenu avec le représentant spécial du président russe pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov. Ils ont notamment évoqué l'évolution de la situation dans le Sahel, le règlement des conflits en Afrique, mais aussi le développement des relations russo-tchadiennes. Les délégations militaires des deux pays ont discuté de la coopération militaro-technique. La partie tchadienne a été représentée par le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Dago Yakuba. La partie russe par les vice-ministres de la Défense, Alexandre Fomine et Younous Bek Yevkourov. Ils ont abordé, entre autres, les questions d'actualité sur la sécurité régionale du continent africain et la nécessité d'intensifier les actions conjointes pour stabiliser la situation. Au micro de Spoutnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabé, a fait le bilan de cette visite. Le président du Tchad, Idriss Déby, est arrivé à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Qu'est-ce que cette visite signifie pour les relations de nos pays ? Et quels en sont les enjeux à votre avis ?
De mon avis, cette visite s'inscrit dans le cadre pour le président Déby de bénéficier d'une caution à l'endroit de son peuple, parce qu'aujourd'hui la Russie fait figure de symbole de la souveraineté, donne la figure qui caractérise les pays, les populations qui veulent s'émanciper d'eux-mêmes. Alors se rapprocher de la Russie, ça donne une cote de popularité assez importante. Je pense une fois de plus que ça peut être une visite tendant à faire croire à la population que le dirigeant tchadien est en train de prendre une nouvelle tournure, celle qui est d'apporter de la souveraineté, d'apporter en tout cas une vision nouvelle avec sa population, parce que la France qui est présente au Tchad, dont les Tchadiens ont plusieurs fois indiqué leur volonté à ce que cette force-là quitte leur territoire. Donc c'est l'occasion pour le président Déby de leur dire que effectivement il y a la France, mais aussi nous avons aussi la Russie qui est avec nous. Je terminerai pour dire aussi que le Tchad, c'est un pays qui est très vaste et un pays qui est immensement riche aussi. Et la Russie, dans un partenariat gagnant-gagnant aussi, peut aider le Tchad à développer certains projets, peut aider le Tchad à développer certaines infrastructures qui va faire bénéficier les populations. C'est là aussi tout l'intérêt pour nous de telles collaborations. Il ne faut pas juste que cette visite soit l'œuvre de manipulation des populations tchadiennes, mais constitue une source nouvelle de collaboration, de partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations tchadiennes.
Cette visite intervient moins d'une semaine après celle du Premier ministre du Niger à Moscou, pays voisin du Tchad. Y voyez-vous un lien ?
Moi, de mon point de vue, cette visite du président tchadien, c'est vraiment pour faire croire au peuple que les dirigeants tchadiens veulent prendre l'exemple du Mali, veulent prendre l'exemple du Niger, veulent prendre l'exemple du Burkina Faso. Mais le Tchad est un pays carrefour avec le Sahel et avec l'Afrique centrale. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque le G5 Sahel a été créé, le Tchad qui en fait partie et qui assurait la présidence du G5 Sahel. Donc le Tchad est un pays important aussi bien pour le Sahel que pour l'Afrique centrale, et c'est d'ailleurs même un pays très carrefour et un pays stratégique et sur lequel la France a mis pied, parce que à travers le Tchad, il y a une certaine facilité de mobilité et de mobilisation du fait de sa position stratégique. Donc pour moi, le seul lien qui peut exister est que chaque dirigeant veut montrer à sa population, à son peuple, que nous partons vers les partenaires sûrs, parce que la Russie s'est montrée comme être un partenaire sûr pour tous les pays qui veulent de la souveraineté, pour tous les pays qui ont pris la résolution d'avoir un monde multipolaire. Donc, c'est le seul point commun que je vois en cette visite à Moscou du Premier ministre nigérien et du président Déby, sauf que le président Déby part dans un contexte où il est assez contesté dans son pays. Donc, pour lui, cette visite, et quand on voit notamment le dépôt de gerbes sur le soldat inconnu, toutes les activités qui s'y déroulent, c'est pour redorer son blason dans son pays, montrer que effectivement il est en bonne relation avec la Fédération de Russie et avec son président. Et donc il montre les signes que il veut retourner vers la souveraineté, et le peuple pourra l'accompagner dans ce sens-là. Donc, l'autre point qui est assez important, comme je le disais, c'est la position stratégique et l'implication du Tchad dans les différentes guerres, que ce soit au Sahel comme en Afrique centrale. Donc, je disais que le Tchad est un pays carrefour entre l'Afrique centrale et même l'Afrique avec le Soudan, avec la Centrafrique et aussi avec le Niger. Et quand vous regardez l'ensemble de ces trois pays qui sont des pays qui sont perpétuellement en guerre du fait de l'impérialisme, du fait de la domination française, fort heureusement que le Niger s'est en sorti de ses griffes de l'impérialisme. Il reste la Centrafrique aussi qui se débat, mais toujours n'est pas encore complètement sorti. Le Soudan, qui est véritablement embourbé dans cette situation d'impérialisme total dominé par le monde occidental. Donc, cette visite est un point d'importance pour la Russie, qui est présente en Centrafrique, mais aussi qui est présente au Sahel. Donc, ça permet à la Fédération de Russie et au président Vladimir Poutine peut-être d'asseoir une stratégie d'ensemble qui pourrait faire revenir le Tchad sur la voie de la souveraineté, sur la voie de l'indépendance réelle.
Le Tchad est le dernier pays du Sahel qui abrite encore des contingents français. Quelle pourrait être la réaction de Paris à cette visite ?
Pour moi, le fait que le contingent français existe ou en tout cas réside toujours au Tchad et quel est le lien avec cette visite ? Alors, très récemment, on a suivi les annonces faites par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui avait annoncé que la France tapait des pieds et des mains pour négocier avec la Russie pour ce qui concerne l'Afrique. Alors, et comme je le disais, le Tchad est en train d'aller dans la formule d'organiser des élections. Et vu les circonstances qui ont émaillé le peu de temps de pouvoir géré par le fils Déby, il est politiquement recommandé qu'il puisse faire ce tour dans des pays qui donnent la confiance aux populations. Donc je pense même que ça pourrait être une recommandation de Paris que le fils Déby fasse une visite pour quand même calmer un peu sa population afin de partir de façon sereine pour des élections. Et d'autant plus que lui-même, il veut se présenter comme étant candidat à sa propre succession de transition. Donc cette situation indique clairement aussi que la France ne veut pas du tout quitter le Tchad. Donc elle donne les éléments pour permettre au président Déby de perdurer le pouvoir, parce que tant que le fils Déby sera là, la France pourra effectivement résider de façon continue au Tchad.
Le Soudan, qui est pour rappel frontalier du Tchad, fait face à un conflit armé depuis le printemps 2023. Quelle contribution Moscou peut apporter à N'Djamena sur ce dossier ?
Donc la question des conflits va véritablement alimenter cette visite, notamment pour ce qui concerne la Centrafrique, pour ce qui concerne le Sahel et pour ce qui concerne le Soudan. C'est un point d'honneur pour la Russie de pouvoir en discuter sur la question, ne serait-ce que pour avoir la vision, la clairvoyance des dirigeants tchadiennes sur la gestion de ces conflits-là, parce que ce soit la résolution ou que ce soit pour faire la guerre, le Tchad est un pays partie prenante d'office sur la gestion de ces conflits. Et avoir la possibilité d'en discuter avec les dirigeants, c'est une très bonne chose. Mais comme je le dis, il est véritablement important que on puisse se tourner vers les questions qui vont nous sortir des griffes de l'impérialisme. Et c'est tout le seul souhait de notre combat. Et c'est ce que nous recommandons au peuple tchadien, de toujours mettre la pression sur les dirigeants pour que enfin ils puissent se tourner vers des pays comme la Russie, comme la Chine, et d'autres pays et d'autres institutions comme les BRICS qui offrent une de nouvelles perspectives de gouvernance mondiale, de collaboration stratégique, de partenaires sur le Tchad est un pays partie prenante très importante dans beaucoup de conflits du point de vue de sa position géographique et de son implication, de sa capacité de force aussi à combattre. Donc les pourparlers dans ce sens-là, avec la mort du G5 Sahel, ça peut être une opportunité pour pouvoir effectivement convaincre les pays de l'AES, effectivement le président Déby, en s'approchant du président Poutine, peut avoir une oreille attentive, surtout si la recommandation vient de Moscou, de tendre la main au président Déby, eu égard à sa position avec les Occidentaux, à sa position avec la France principalement. Donc ce serait une possibilité, mais là c'est encore à voir et puis à revoir parce qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations par rapport à la position, par rapport à la vision même du président tchadien et des autres présidents, parce que on se rappelle que le Mali, avec l'implication du Tchad dans la crise malienne, le Mali garde en mémoire une mauvaise image du Tchad dans le combat du terrorisme au Sahel, parce que le Tchad fait partie aussi des pays et qui ont facilité la séparation du Mali en complicité avec la France. Donc c'est cette image-là que Bamako garde toujours, et les pays de l'AES ayant pris la ferme résolution de ne plus collaborer avec la France, alors que le président Déby n'arrive pas à se sortir des griffes de la France, une main de Moscou pourrait faire changer les choses, et je pense que c'est peut-être cette situation qui a prévalu la visite et éventuellement les négociations qui vont s'en sortir. Dans tous les cas, les jours à venir et avec les différentes communications pourront nous situer sur les attentes réelles de cette visite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que ce président-là va davantage travailler à sortir sa population de la misère et arrêter de maltraiter les populations, mais chercher des partenariats pour développer son pays, pour offrir un mieux-être à sa population. Ça, c'est notre souhait.
La situation sécuritaire et le règlement des conflits dans la région du Sahel ont été dans le viseur des pourparlers à Moscou entre les ministres de la Défense et des chefs de la diplomatie du Tchad et de la Russie. Ces discussions ont lieu peu après la création de l'Alliance des États du Sahel, dont un des buts prioritaires est la lutte contre l'insécurité, et après le démantèlement du G5 Sahel. Peut-on s'attendre, selon vous, que dans le domaine de la sécurité, N'Djamena participe plus activement aux efforts communs de l'AES? Et comment cette participation du Tchad pourrait changer la situation sur le terrain?
Alors, la suite des pourparlers avec le président tchadien, notamment pour ce qui concerne la création de l'AES, il faut dire que la réponse adaptée à cette crise sécuritaire est effectivement la mise en commun des efforts de part et d'autre, notamment les pays qui sont fortement impliqués, dont le Tchad est aussi fortement impliqué. Cependant, le G5 Sahel, l'attirage du G5 Sahel piloté depuis l'impérialisme a été le seul facteur bloquant qui a connu l'échec ajusté du G5 Sahel. Alors l'AES se montre comme un instrument des Africains par eux-mêmes pour s'en sortir de cette crise sécuritaire. Et je pense que le président Déby est pleinement conscient de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la France qui est présente au Tchad, mais je pense que si le président Déby a l'occasion d'avoir une porte ouverte par rapport à l'AES pour juguler cette crise sécuritaire-là, alors il ne va pas hésiter, parce que c'est également dans son intérêt qu'ensemble, en tant que pays africain, on puisse se donner la main pour booster cette crise.
C'était Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabé pour Spoutnik Afrique. Il a fait le bilan du déplacement du président tchadien de la transition Idriss Déby à Moscou.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique depuis Bamako. Je salue celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio sur le 99.5 FM. Un avion russe qui transportait des prisonniers de guerre ukrainiens a été abattu par l'armée ukrainienne dans la région de Belgorod. Ces derniers étaient transportés dans cette région en vue de procéder ensuite à un échange. Selon le gouverneur de la région, 65 militaires ukrainiens, 3 accompagnateurs et 6 membres d'équipage ont péri. Les médias du régime de Kiev ont rapporté très rapidement que c'est l'armée ukrainienne qui avait pris pour cible l'avion avant de finalement modifier en urgence leur publication. Le ministère de la Défense russe a affirmé avoir repéré le lancement de 2 missiles ukrainiens depuis la localité de Lipsy dans la région de Kharkov. Un média français se référant à des sources militaires de son pays a rapporté que l'avion a été touché par une batterie de défense aérienne Patriot de fabrication américaine détenue par l'armée ukrainienne. Dans le même temps, la France, qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU, a refusé de convoquer une réunion d'urgence sur l'avion abattu. Par conséquent, la rencontre que la Russie avait proposé d'organiser le 24 janvier, immédiatement après l'incident, n'aura lieu que dans la soirée du 25 janvier, après la diffusion de notre émission sur les ondes de Maliba FM. Au micro de Spoutnik Afrique, François Asselineau, président du parti politique français UPR, ex-candidat à l'élection présidentielle française, nous a livré ses analyses de cet événement.
Un avion transportant des prisonniers de guerre ukrainiens en vue d'un échange a été abattu par l'armée ukrainienne dans la région de Belgorod. Et quelle est votre réaction à cet événement ?
Alors écoutez, vu de Paris, il y a des informations contradictoires qui circulent parce que cette information a été donné sur les chaînes de radio et de télévision en France comme émanant de la Russie. Et donc, les présentateurs, vous savez qu'en France, on présente tout ce qui vient de Russie comme étant enveloppé de mensonges, etc. Et on nous a donné ensuite la version ukrainienne qui consistait à dire non, pas du tout. En fait, l'avion était rempli de matériaux techniques, de composants techniques et électroniques pour les missiles S-300. En réalité, si on creuse un petit peu le sujet, on s'aperçoit que Il y a un site ukrainien qui s'appelle Ukrainskaya Pravda, c'est-à-dire l'un des journaux les plus importants d'Ukraine, qui avait bien confirmé que c'est l'armée ukrainienne qui avait abattu cet avion. Et puis ensuite, ils ont retiré cet article. Et puis, il y a une espèce de cafouillage qui vient de l'Ukraine. Ils ont été obligés d'avouer, notamment que le porte-parole de la direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, qui s'appelle Andriy Youssov, a dû expliquer qu'en effet, il y avait un échange de prisonniers qui devait avoir lieu aujourd'hui, et qu'en fait, cet échange de prisonniers n'aurait pas lieu. Sur ces entrefaites, on a eu la directrice en chef de la chaîne russe RT, Russia Today, Margarita Simonian, qui a publié une liste avec les noms de 65 personnes qui semblent être les personnes décédées dans le crash de Ilyushin, parmi lesquelles il y aurait, d'après une autre chaîne d'information, 12 membres du régiment ukrainien Azov. Alors, du régiment, vous savez, qui est quasiment des néo-nazis. Alors, moi, si je vois tout ça, toutes ces informations qui se télescopent, on a quand même l'impression, en définitive, que la version russe est la bonne, elle est exacte, que c'était en effet des prisonniers de guerre ukrainiens, parmi lesquels certains étaient d'ailleurs dangereux, Azov. Il est certain que c'est l'Ukraine qui a abattu l'avion. Il est probable qu'il se soit agi d'une méprise de la part des forces ukrainiennes et qui ont abattu cet avion plutôt qu'un autre. Il paraît aussi d'ailleurs qu'il y avait un deuxième avion qui a rebroussé chemin. Voilà, donc un peu ce que l'on peut dire. Il semblerait que l'information actuellement, enfin, ce sont des informations qui sont parcellaires et qui sont évidemment partisanes d'un côté comme de l'autre. Mais moi, je dirais, au vu de toutes les informations que j'ai collationnées, que c'est a priori la version russe qui est la bonne, d'autant plus qu'elle est assortie, encore une fois, d'une liste de 65 noms de personnes avec les dates de naissance. Ça paraît quand même assez sérieux, puisque maintenant, ça va être aux Ukrainiens de confirmer ou d'invalider s'il s'agissait de prisonniers de guerre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que l'échange de prisonniers de guerre, il y en avait un qui était prévu et d'un seul coup, il est annulé, ça témoigne d'un certain désarroi et d'une désorganisation du côté des autorités ukrainiennes, je pense.
Et selon vous, pourquoi l'armée ukrainienne a frappé ses propres soldats? Est-ce que vous n'y voyez pas, quelque part, une forme de terrorisme de la part de Kiev vis-à-vis de son propre peuple?
Alors là, je ne sais pas. J'aime bien être prudent. J'aime bien avancer des choses qui sont solides et qui sont non contestables. Moi, ce que je pense, c'est une possibilité. Hein, c'est une hypothèse. C'est en effet une espèce d'hypothèse de gestion de la terreur. Mais il y en a une autre que j'esquissais auparavant, c'est qu'il s'est peut-être agi d'une méprise, puisque encore une fois, j'ai vu cette information comme quoi il y avait deux avions qui se succédaient et que le deuxième aurait fait demi-tour lorsqu'il a vu qu'il était arrivé au premier. Alors, est-ce que dans le deuxième, il s'agissait d'un avion qui effectivement comportait des composants nécessaires à l'armée russe pour ces missiles S-300 qui font quand même beaucoup de dégâts en ce moment en Ukraine? Est-ce que les autorités ukrainiennes se seraient trompées d'avion? Ça fait partie de... C'est une autre possibilité. Vous savez, c'est comme la fameuse affaire qui est restée finalement sans réelle solution satisfaisante, qui est l'avion de la Malaysian Airlines qui avait été abattu au-dessus de l'Ukraine.
Oui, tout à fait, en 2014.
Voilà, la version européenne, la version occidentale, c'est que ce serait en fait des forces indépendantistes du Donbass pro-russe qui auraient abattu cet avion de ligne par erreur. Donc ça, c'est la version occidentale qui revient à dédouaner l'Ukraine de toute responsabilité et à accabler la Russie. Et puis, il y a une autre version qui circule, c'est qu'en fait, ce sont les forces armées ukrainiennes qui auraient abattu cet avion en se méprenant et en pensant qu'il s'agissait d'un avion dans lequel se trouvait le président Poutine lui-même, et qui serait passé d'ailleurs à proximité avec un délai, une différence de lieu et de temps qui n'était pas très grande. Alors là-dedans, on n'a jamais très bien su quel était le résultat. Moi, je vis à Paris, je vis en France, donc on a essentiellement les informations venant du camp occidental, mais il reste toujours un peu du mystère vu de chez nous. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'une possibilité d'une erreur? Ça fait partie. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent circuler. Il y a en effet celle que vous évoquez et puis il y a celle que j'évoque.
On va passer maintenant à un volet un peu plus diplomatique. Aujourd'hui, le président du Tchad, Idriss Déby, a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine pour cette attaque, alors que dans le même temps, la communauté internationale n'a pas réagi. Pourquoi continue-t-elle de garder le silence sur ces exactions commises par Kiev ?
D'abord, ça dépend de ce qu'on appelle la communauté internationale. Vous savez, c'est en Occident, en Europe, dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, tous les médias parlent de la communauté internationale, mais c'est un mot codé, c'est une expression codée, puisque pour moi, ce que l'on devrait appeler la communauté internationale, c'est l'ensemble des pays du monde regroupés aux Nations Unies, où il y a 193 États, il n'y a qu'une poignée d'États dans le monde qui ne sont pas membres des Nations Unies, Taïwan par exemple. Donc, la quasi-totalité de la communauté internationale, pour moi, ce sont les membres des Nations Unies. Mais dans les pays occidentaux, on a appris à avoir une espèce de langue de bois, de langue mensongère, qui réduit la communauté internationale en fait aux États-Unis d'Amérique ou au Canada, à l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et puis éventuellement le Japon et la Corée, c'est-à-dire en fait les pays de l'OCDE. Alors c'est pas du tout la même chose. Il faut pas confondre les pays de l'OCDE qui sont en fait les vassaux des États-Unis d'Amérique avec la communauté internationale. Donc en effet, dans les pays vassalisés par Washington, il y a un parti pris systématique des médias qui est un parti pris anti-russe, et on le voit en France parfaitement. Et donc, ça explique qu'il n'y a jamais... Les autorités russes ne trouvent jamais grâce aux yeux des médias occidentaux et toutes les exactions qui peuvent être commises contre la Russie ne sont jamais mentionnées. En revanche, on mentionne les exactions qui seraient commises par la Russie en Ukraine, quitte d'ailleurs à faire des narratifs qui fleurent la désinformation. Alors que Idriss Déby pour le Tchad, ben lui il fait partie des Nations Unies, mais il fait pas partie de la communauté internationale au sens américain du terme. Et donc lui, comme un certain nombre d'autres pays du Sahel, c'est un secret de polichinelle, se sont tournés vers la Russie depuis quelques temps et donc sont davantage enclins à croire les informations venant de Moscou et donc à présenter en effet leurs condoléances. Je crois que c'est comme ça que ça se résume. Ce qui est triste, c'est que s'il se confirme qu'en fait il s'agit bien d'un tir ukrainien qui a tué 63 prisonniers ukrainiens, que ce soit par erreur ou que ce soit volontairement, mais si ça se confirme, vous verrez qu'il n'y aura aucune condoléance qui sera présentée ni par l'Ukraine, ni par les médias occidentaux qui auront vite fait de changer de sujet.
Et on va parler également de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU où Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, était présent. À cette occasion, il a rappelé que la Russie était prête à négocier avec l'Ukraine, mais pas sur la manière de maintenir au pouvoir les dirigeants actuels à Kiev. Quel commentaire pouvez-vous faire ?
Écoutez, moi, personnellement, j'ai du respect pour Sergueï Lavrov. Je considère que c'est un très grand professionnel. Je dirais même que c'est sans doute, sur la scène internationale, le ministre des Affaires étrangères le plus chevronné et qui, souvent, tient des propos de très bon sens et conforme au droit international. Donc, je suis au regret de dire que ce n'est pas le cas, malheureusement, du ministre français des Affaires étrangères. Le nouveau ministre que nous avons maintenant est encore pire que la précédente, que Madame Colonna. Monsieur Séjourné, il est maintenant ridiculisé, brocardé par les Français. Il y a quasiment des chansons contre lui, parce que c'est quelqu'un qui n'a quasiment aucun diplôme, aucune expérience, et qui ne parle pas bien le français, d'ailleurs. C'est assez extraordinaire.
Oui, ça a été remarqué. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux les utilisateurs français railler, justement, le nouveau chef de la diplomatie française pour ses fautes de grammaire à son arrivée à Kiev.
Non seulement des fautes de grammaire, mais des fautes de syntaxe, c'est affreux. C'est affreux, on n'a jamais vu ça depuis toute éternité. On n'a jamais vu un ministre des Affaires étrangères aussi nul. Il ne connaît rien, il n'a aucune expérience, il n'a jamais vécu à l'étranger, il n'a jamais rencontré personne, il n'a aucun diplôme, paraît-il qu'il est dyslexique et qu'il sait pas bien lire non plus. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale il y a quelques jours sur la question palestinienne, et soit parce qu'il a mal lu le texte qui lui avait été présenté, parce que... En fait, c'est quasiment un présentateur de télé qui ne fait que lire ce qu'on lui met sous le nez. Mais même ça, il semble avoir des difficultés parce que il a eu cette phrase particulièrement malheureuse lors d'un débat à l'Assemblée nationale où il a dit que le président de la République était le garant du maintien des souffrances des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il a dit ce que normalement je pense qu'il devait vouloir dire le contraire, c'est-à-dire que le président de la République devait être le garant d'arrêter les souffrances des Palestiniens, et en fait il a dit le contraire, il a dit le garant du maintien des souffrances des Palestiniens. Alors évidemment ça a fait un tollé dans une partie chez une partie des députés, et évidemment sur les réseaux sociaux où les gens se sont dit qu'il était archi nul. Alors, tout ça pour dire quoi ? Ben pour dire que, honnêtement, quand on est français et qu'on s'intéresse aux questions internationales, on a quand même un peu honte de voir que face à un professionnel comme Sergueï Lavrov, on présente quelqu'un d'aussi ridicule, enfin qui n'est pas du tout à sa place face à Monsieur Lavrov. Ça dit d'ailleurs au passage, c'est un sujet important, ce que je dis, parce que ça prouve que Monsieur Macron, en fait, a mis délibérément une potiche, comme on dit, quelqu'un d'incompétent au Quai d'Orsay, parce qu'il veut être le seul à décider de la politique internationale, et il veut avoir une espèce de simple domestique ou de simple secrétaire au Quai d'Orsay, ce qui est très très mauvais à tous les égards. Alors maintenant, lorsque Sergueï Lavrov il dit ce qu'il dit, c'est que même si l'Occident ne veut pas le reconnaître, tout le monde a bien compris que l'Ukraine est quand même très très mal partie, que les événements évoluent très très vite en faveur de la Russie. Vous avez vu que l'ancien président Donald Trump après avoir remporté le caucus de l'Iowa, a remporté la première primaire dans le New Hampshire. Dans l'histoire des États-Unis, tous les candidats républicains qui avaient obtenu le caucus de l'Iowa puis la primaire du New Hampshire ont toujours fini par avoir l'investiture. Maintenant, il n'y a plus que Madame Nikki Haley qui conteste l'investiture républicaine à Donald Trump. Il va y avoir la prochaine primaire, c'est en Caroline du Sud, qui est justement l'État dont Madame Haley avait été gouverneure. Les sondages sont très mauvais pour elle. Il est assez probable que elle va attendre la prochaine primaire ou la suivante, qui est le Super Tuesday du 5 février, et elle sera battue. Et donc, ça veut dire que Donald Trump va avoir l'investiture républicaine. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et surtout pour le sujet dont on parle, la question ukrainienne, puisque si d'aventure Donald Trump est réélu, est élu contre Biden, il le sera dans une atmosphère très particulière de vengeance du peuple américain qui impose un candidat que l'oligarchie ne veut pas. Et Donald Trump a toujours dit que s'il était élu président des États-Unis, la guerre en Ukraine s'arrêterait dans les 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il était élu président des États-Unis, il arrêterait de soutenir le régime de Zelensky, il cesserait, c'est déjà ce qu'ont fait d'ailleurs les Américains, parce que l'opinion publique américaine ne veut pas continuer à donner de l'argent et des armes à l'Ukraine, mais Donald Trump arrêtera également de demander aux Européens de faire le travail à la place des États-Unis. Et puis, en fait, tout le monde sait bien que l'Europe, là-dedans, les pays d'Europe, hélas, l'Union européenne n'est plus qu'un supplétif des États-Unis, que Madame von der Leyen est une employée de Washington. Et donc, tout le monde sait bien que la solution du conflit en Ukraine passe obligatoirement par la Maison-Blanche. On peut donc comprendre dans ces conditions que le ministre russe Lavrov à la fois tend la main pour aller vers un accord de paix, parce qu'il faudrait arrêter cette guerre qui fait des ravages, notamment dans la jeunesse ukrainienne, mais on comprend aussi que comme la Russie est en voie de gagner et d'imposer son point de vue, elle ne va pas céder sur ses objectifs. On a toujours tendance à oublier quand même que le front s'est stabilisé, mais avec la Russie qui a quand même 20% du territoire de l'ancienne Ukraine sous son autorité, et qu'on ne voit pas du tout, alors que l'Ukraine n'a pas obtenu un kilomètre carré sur le territoire russe. Donc on oublie qu'il y a quand même une faiblesse insigne. Et c'est quand même très fort de la part de la Russie, puisque je rappelle que la Russie ne se bat pas contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN, c'est-à-dire contre une trentaine de pays ligués contre la Russie. Donc je peux comprendre que le gouvernement russe fasse preuve de cette position que je crois assez intelligente, c'est de montrer qu'il est prêt à avoir un accord de paix. La Russie a tout intérêt d'ailleurs à montrer qu'elle n'ambitionne pas du tout de mettre la main sur l'ensemble du territoire ukrainien. Vous savez qu'il y a toute une propagande en Occident et en France en particulier où on veut faire croire aux Français que l'objectif de la Russie, c'est de mettre la main sur l'ensemble de l'Ukraine pour ensuite attaquer la Pologne, puis la Bulgarie, la Roumanie, puis l'Allemagne, puis la France, enfin... Voilà,
et aussi les pays baltes, on a vu, c'était Bild, et encore récemment un média britannique qui avait publié des plans d'attaque de la Russie à travers les pays baltes avec même un scénario, si vous vous souvenez.
Oui, tout à fait. Avec en parlant à horizon de 2040, 2044, on est en plein délire, on est en pleine propagande. Je pense personnellement que les autorités russes ont beaucoup de sang-froid. Parce que si on revoit toute cette histoire depuis le mois de février 2022, on peut voir quand même que les autorités russes ont eu beaucoup de sang-froid, beaucoup d'expérience, et qu'elles ont essayé de gérer toute cette affaire en essayant, dans la mesure du possible, de minimiser les pertes, et en tout cas de ne pas monter aux extrêmes, de ne pas monter jusqu'à la guerre nucléaire. Je rappelle que si Vladimir Poutine est intervenu en Ukraine, c'était pour couper l'herbe sous le pied de l'Ukraine qui se proposait d'intervenir militairement, avec le soutien de l'OTAN. Donc, on a affaire d'un côté à un gouvernement qui a essayé et essaye de faire preuve d'un certain sang-froid dans les opérations, alors que de l'autre côté, on a un gouvernement ukrainien qui ne représente d'ailleurs plus vraiment la population et qui est le proxy, comme on dit, des États-Unis d'Amérique et d'une coalition de pays de l'OTAN. Il y a aussi autre chose qui joue d'ailleurs contre l'Ukraine, c'est la lassitude qu'il y a dans les pays d'Europe eux-mêmes. En France, si l'on faisait un référendum en France sur le soutien à l'Ukraine, je suis persuadé qu'au début 2022, dans les premiers mois, il y aurait eu une majorité de Français qui auraient soutenu l'Ukraine contre la Russie. Pourquoi ? Parce que les Français, ils découvraient l'information, on leur présentait l'information de façon biaisée, on présentait la Russie comme un agresseur gratuit, alors que tout auparavant était pour dans le meilleur des mondes. On ne leur rappelait pas toutes les exactions qui avaient été commises dans le Donbass, on ne leur rappelait pas tous les accords qui avaient été piétinés quant au respect de l'autonomie et de la langue des populations du Donbass. Donc le français de la rue, comme on dit, les gens qui ne connaissent pas bien les questions géopolitiques, ils ont cru ce qu'on leur disait dans les grands médias français. Et donc, dans un premier temps, il y a eu un soutien quand même très important, je pense, à l'Ukraine. Mais ce soutien s'est effrité petit à petit, au fur et à mesure que l'on s'est aperçu que les choses étaient plus compliquées, au fur et à mesure que un certain nombre d'informations circulaient sur les réseaux sociaux. Je pense en faire partie d'ailleurs de ceux qui ont contribué à modifier l'opinion publique française sur cette affaire. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé 1 million, même 1 400 000 vues, ce qui est beaucoup en France, sur l'Ukraine, pour rappeler quelle était l'histoire de l'Ukraine, comment y avait-il des Russes qui étaient arrivés dans le sud de ce qui est actuellement l'Ukraine, etc., etc. Donc, un rappel historique. J'ai montré aussi, et j'ai pas été le seul, que les positions ukrainiennes avaient été constamment changeantes et les soutiens occidentaux constamment en fait trompeurs contre la bonne foi des Russes à partir notamment de l'affaire de 2014. Bref, en attendant, il y a eu aussi beaucoup d'informations qui sont apparues sur le caractère, sur les liens avec des néo-nazis en Ukraine, sur la corruption généralisée, sur également quelque chose qui concerne beaucoup les Français, c'est l'importation massive de poulets ukrainiens, puisqu'il y a une seule société qui fabrique des poulets en Ukraine qui est tenue par un oligarque proche de Zelensky, qui est un milliardaire, qui s'était d'ailleurs construit une reproduction du château de Versailles dans le sud de la ville de Kiev. Ces poulets sont des poulets industriels, gavés avec des OGM, des hormones, enfin bref. Depuis, sur une décision du Conseil européen sur proposition de la Commission européenne, depuis maintenant des mois et des mois, l'Ukraine est devenue une espèce de membre fantôme de l'Union européenne, en ce sens qu'elle peut exporter vers l'Union européenne ses céréales ou tous ses produits agroalimentaires sans quota et sans droit de douane, exactement comme si elle faisait partie du marché commun. C'est une décision complètement exorbitante du droit commun, mais ça veut dire que, par exemple, sur les poulets, eh bien, il y a eu une augmentation de près de 100% d'importation en France des poulets ukrainiens. Et ça entraîne des faillites de certaines sociétés d'aviculture en France, par exemple dans les poulets de Loué, qui sont des poulets d'origine protégée. Et vous voyez, le contre-coup de toute cette affaire, c'est que en France, le pays est bientôt à feu et à sang avec des agriculteurs qui protestent notamment notamment contre la concurrence venue d'Ukraine, que ce soit sur les volailles, que ce soit sur les céréales, qui est en train de complètement déstabiliser l'agriculture française. Donc, en fait, tout se tient, la diplomatie, la géopolitique, l'économie, l'agriculture, ce sont des sujets où tout se tient. Et le résultat de tout ça, c'est que l'opinion publique a commencé à beaucoup changer, beaucoup évoluer, et je suis absolument persuadé que si aujourd'hui on faisait un référendum en France où on demandait aux Français si vous voulez continuer à soutenir, à envoyer de l'argent et des armes au régime de Zelensky ou est-ce que vous voulez arrêter, je suis sûr et certain qu'il y aurait une majorité de Français qui voudraient que l'on arrête et que l'on arrête de se mêler de cette affaire.
Moi, je voudrais revenir avec vous sur un propos que vous avez dit tout à l'heure qui est très intéressant, c'est le Français de la rue, celui qui ne connaît pas la géopolitique. Ne voyez-vous pas un de ces effets qui a contribué à ce changement de position des Français sur l'Ukraine, la question du 7 octobre 2023 avec le début de l'offensive israélienne sur Gaza?
Alors, c'est encore un autre élément. Si l'on veut être exhaustif, il faut effectivement parler de tous les éléments qui ont pu jouer. Vous avez raison, l'affaire du 7 octobre et de ce qui en s'en est suivi a montré aux Français, d'une façon alors presque caricaturale, le deux poids deux mesures de la diplomatie occidentale. Voilà, c'est-à-dire que là, on a certes, il y a eu une action qui a été commise par le Hamas le 7 octobre, qui a fait des centaines de morts. On ne sait pas exactement très bien comment ni dans quelles conditions, mais enfin, semble-t-il, plusieurs centaines, certains disent 1000, 1200 morts israéliens. Si c'est exact, c'est le pire carnage qu'Israël ait connu depuis sa fondation en 1947-48. Mais il y a aussi beaucoup de questions qui se sont posées à cette occasion, et notamment le fait qu'en fait, sans doute, Netanyahou, premier ministre israélien, aurait eu connaissance de ce qu'il allait y avoir un acte terroriste commis par le Hamas et l'aurait laissé se poursuivre pour pouvoir ensuite justement mener une campagne de contre-terrorisme d'une violence absolument inouïe. C'est un petit peu le théorème de Pearl Harbor, vous savez, où on estime que le président Roosevelt a délibérément laissé attaquer la marine américaine le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor dans les îles, dans l'île d'Oahu, dans les îles Hawaï, parce que ça lui permet de donner un argument ensuite, justement, pour entrer en guerre contre le Japon et contre les puissances de l'Axe. Alors, certains disent, par exemple, qu'il est absolument incroyable que plusieurs centaines de militaires, de soldats du Hamas aient pu sortir de la bande de Gaza, alors que tout est surveillé électroniquement 24 heures sur 24. Bon, il y a beaucoup de mystères. Quoi qu'il en soit, les médias occidentaux ont alors à ce moment-là expliqué que la position israélienne était tout à fait justifiée et ont justifié l'injustifiable, parce que qu'il y ait que Israël ait le droit de se défendre, c'est tout à fait exact, mais Israël a le droit à la défense, mais Israël n'a pas le droit à la vengeance, ni non plus à procéder à des mesures qui ressemblent à du nettoyage ethnique, qu'on le veuille ou pas. C'est quand même pas banal que l'Afrique du Sud, qui est un pays qui s'y connaît en matière d'apartheid, c'est le moins qu'on puisse dire, que l'Afrique du Sud ait saisi la Cour internationale de justice, d'ailleurs avec le soutien de la Namibie, etc. L'image de l'État d'Israël dont le monde entier sort de cette affaire, qui n'est d'ailleurs pas terminée, extraordinairement dégradée. Alors, les Français ont pu constater que d'un seul coup, d'abord, la question Ukraine-Russie est passée à l'arrière-plan, on en a moins parlé, et puis deuxièmement, les Français ont pu constater que ce que l'on reproche à la Russie, on en félicite Israël. Donc, il y a un deux poids deux mesures qui lâche les Français, qui les irrite, qui les agace. Les Français, vous savez ce que voudraient les Français surtout, c'est que monsieur Macron fasse moins de moulinets comme ça dans l'air, brasse moins d'air, s'occupe moins de questions internationales où il est très incompétent, il n'a fait que des malheurs, par exemple notre position en Afrique, et que on s'occupe beaucoup plus de la situation des Français en France. Voilà, parce que le niveau de vie des Français ne cesse que de se dégrader, notamment à cause des questions énergétiques, Hein, je rappelle ici la destruction du gazoduc Nord Stream par les Américains, et les Français et les Allemands n'ont même pas osé protester contre Washington, ce qui montre notre degré de servitude. Les Français aimeraient qu'on s'occupe de leur niveau de vie, de leur liberté publique. Les Français sont très inquiets de l'évolution de la situation. Les Français voudraient qu'on défende leur agriculture en interdisant les importations d'Ukraine, etc., etc. On assiste en effet à un décalage de plus en plus complet entre d'un côté les élites, enfin les dirigeants français, et puis les européistes, et puis de l'autre côté la population. Je pense que tout ceci va se mesurer dans les urnes d'ailleurs le 9 juin prochain pour les élections européennes, où je pense que normalement il devrait y avoir une sanction contre la politique de Macron et contre tous ceux en fait qui soutiennent l'Union européenne sans regard critique.
C'était François Asselineau, président du parti politique français UPR pour Sputnik Afrique. Il nous a présenté ses analyses du crash d'un avion transportant des prisonniers de guerre ukrainiens, abattus par l'armée ukrainienne alors que ces derniers allaient être échangés. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. La journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, c'était le 24 janvier. Placée sous l'égide de l'UNESCO, cette date a été adoptée par cette institution à l'occasion de la 40e session de sa conférence générale en 2019. De plus, cette journée mondiale coïncide avec l'adoption de la charte de la renaissance culturelle africaine en 2006 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La célébration de cette date a pour objectif de promouvoir la ratification et la mise en œuvre au sens le plus large possible de cette charte par les États africains et de renforcer le rôle de la culture dans la promotion de la paix sur le continent. Au micro de Sputnik Afrique, le Dr Massamba Kay, vice-président de la Commission de la Culture de l'Union de la Diaspora africaine, est revenu sur l'importance de cette journée pour la mise en valeur de la culture africaine. Nous savons que l'Afrique est un continent qui présente une grande diversité culturelle avec plus de 3000 cultures différentes et près de 2000 langues reconnues et parlées en Afrique. Quels sont les éléments communs dans la culture africaine que l'on retrouve dans toute la région ?
Rhythm, mythology.
Le rythme, la musique, la mythologie et bien sûr la cuisine, la mode et les structures sociales. Je pense donc que l'Afrique possède des structures sociales uniques et extrêmement particulières en raison tout d'abord de sa géographie, de ses espaces et de ses conditions météorologiques.
En quoi le concept de culture en Occident diffère-t-il de ce que signifie la culture en Afrique ?
La culture est essentiellement constituée de pratiques communes utiles et précieuses sur le plan social. On peut dire que tout le patrimoine culturel vient d'Afrique parce que les pratiques culturelles utiles, comme par exemple la production d'outils, viennent d'Afrique. Les outils nous permettent de façonner notre environnement d'une manière plus confortable et plus durable. Par conséquent, tout ce qui découle des outils et de leur utilisation, y compris l'utilisation des matériaux et leurs modifications, provient d'Afrique. Dans ce contexte, la différence entre une culture européenne et une culture africaine réside dans la chronologie. Les éléments adoptés par les cultures européennes proviennent d'Afrique beaucoup plus tôt. Mais ensuite, les nations, les cultures d'un autre continent, ont pris l'héritage du continent africain et l'ont utilisé pour développer leur propre culture. Si vous comparez les deux, vous verrez peut-être qu'elles sont différentes, mais dans le sens où elles ne sont qu'une évolution de la même chose.
En 2019, l'UNESCO a désigné le 24 janvier comme étant la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Selon vous, pourquoi la culture africaine devrait-elle être une priorité pour le monde afin de promouvoir sa préservation ?
Il s'agit d'une reconnaissance de notre interdépendance et de notre nature interconnectée. C'est à mon avis le point principal qui doit être abordé. C'est la reconnaissance du fait que nous sommes, dans une large mesure, plus semblables que différents, et que l'Afrique est quelque chose qui nous unit tous au sens culturel du terme. Apprendre et comprendre les différences et les similitudes entre les groupes ethniques d'Afrique et les comparer entre eux avec d'autres cultures du monde finira par nous montrer une évolution ou un développement naturel, comment l'un vient de l'autre. Si nous sommes capables d'envisager cette continuité, nous pourrons résoudre un grand nombre de problèmes sociaux et économiques dans le monde. Tout d'abord, en reconnaissant notre origine commune dans la culture.
Je vous propose de nous parler un peu de la diaspora africaine et de la façon dont vous pensez qu'elle a affecté la préservation de la culture africaine.
La diaspora africaine est un véhicule qui fait avancer la culture. C'est la première instance où les gens peuvent se présenter et se familiariser avec la culture africaine. Et ensuite, si cela les intéresse, ils peuvent progresser et approfondir leurs connaissances par le biais de leurs groupes ethniques et de divers aspects culturels du continent lui-même. C'est comme le premier point d'introduction, je dirais. Je conseille vivement à la diaspora africaine de veiller à représenter la diversité du continent africain dans toute sa beauté, plutôt que d'essayer de s'intégrer, pour ainsi dire, dans le contexte général. Je pense qu'il est très important de représenter les choses de manière équilibrée, ce qui créera la bonne image du continent africain à l'avenir. Si nous regardons l'histoire, il y a beaucoup de stéréotypes qui existent sur le continent, en dehors du continent, et cela rend difficile l'étude de la culture, parce que vous vous heurtez à des concepts qui n'appartiennent pas au continent, mais qui sont créés par des points de vue de l'extérieur. Ainsi, grâce à la diaspora, aux événements culturels, à la compréhension des rythmes, de la musique, de la nourriture, de la mythologie, de toutes les choses qui rendent la culture unique, les autres nations pourront, tout d'abord, apprendre à mieux se connaître et voir que certains de leurs aspects proviennent de l'héritage africain et qui pourront voir comment cela s'est transformé dans leur culture. Ensuite, et c'est le plus important, chacun verra comment il peut travailler ensemble dans le futur monde intégré, parce que la culture est la chose la plus importante pour que les gens fassent des choses ensemble. S'ils peuvent voir les similitudes dans la culture et apprécier les différences, c'est alors qu'ils peuvent faire des choses ensemble pour le monde en général.
Vous travaillez également sur les relations entre la Russie et l'Afrique. J'aimerais savoir comment la culture africaine est perçue en Russie.
Elle s'est développée au fil des ans et présente différents aspects. Mais en résumé, il existe de nombreuses similitudes entre les cultures d'ici et d'Afrique. Il y a une chose que je peux dire à propos de la Russie en tant que culture, dans le sens de l'appréciation de la culture africaine. Et c'est ce que j'ai entendu de la part d'un Africain. Selon eux, la culture russe est l'une des cultures les plus acceptables au monde, si ce n'est la plus acceptée. Car si l'on considère les mariages, n'importe qui de n'importe quelle nation peut plus ou moins épouser une femme russe. Au contraire, d'autres cultures sont beaucoup plus strictes en ce qui concerne cet aspect de la société, ce qui reflète vraiment la relation. La Russie est ouverte et s'ouvre à l'Afrique, et l'Afrique est un endroit qui reflète la manière dont vous interagissez avec elle. Si nous examinons cet aspect de la relation entre les deux cultures, je dirais que la Russie et l'Afrique entretiennent probablement les relations les plus chaleureuses, en dépassant les stéréotypes du niveau de base de l'essence culturelle. À mon avis, elles sont très similaires en termes, tout d'abord, de valeurs humaines fondamentales simples.
Et quel rôle la communauté internationale devrait-elle jouer dans la restauration, la préservation et la promotion des cultures africaines?
Il s'agit de chérir, d'étudier, d'apprécier et d'exposer notre patrimoine commun. La communauté internationale doit reconnaître que l'Afrique est un patrimoine mondial. Tout comme la Terre est le patrimoine des êtres humains et le continent africain est le patrimoine de l'origine de l'humanité. En ce sens, c'est comme chérir ses parents, chérir sa mère, donner à l'être humain une chance d'exister. Cela doit être intégré dans l'éducation, dans le divertissement, dans les médias, dans l'écriture. Je pense que ce message est le principal instrument qui permettra de lier tout cela. Car le monde a besoin d'une compréhension commune de son origine au niveau de l'identité nationale. De cette manière, le scénario divisé pour régner n'est pas possible. Les gens sont beaucoup plus fonctionnels lorsqu'ils se réunissent autour d'une idée commune. Je pense que l'Afrique est le continent qui se développe le plus rapidement, et nous n'avons pas encore entendu parler de la manière dont l'Afrique se présentera à notre communauté mondiale. Plus nous serons attentifs, conscients et éduqués au sujet du continent, plus fructueuse sera la relation avec le leader mondial de l'avenir ou avec les nations qui ont actuellement une sorte d'avantage, peut-être en termes de technologie ou sur d'autres aspects. La seule façon de construire une relation future qui garantira un bénéfice mutuel est d'apprécier la culture.
C'était le docteur Massamba Kay, vice-président de la Commission de la culture de l'Union de la diaspora africaine pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur l'importance de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante pour le continent africain, qui a été célébrée le 24 janvier. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Pour Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.